France Inter.
Monstre, nom masculin désignant un individu dont l'apparence ou le comportement surprend par rapport aux normes d'une société. Utilisé comme adjectif, il désigne une quantité très importante, c'est le volumineux et c'est l'extraordinaire. Alors c'est bien le prodigieux. Miraculeux, rare, exotique, il est créature fantastique, échappe aux règles, au cadre, aux cases. Il est, pour Aristote, celui qui ne ressemble pas à ses parents. Ils sont le modèle, il est le déviant. Et il y a comme un vice dans la forme pour certains. Donc, il est difforme, méduse, golem ou bien gorgone. Elle est sirène, il est King Kong en théorie, car Diderot dit que la femme est le monstre de l'homme. C'est lui le patron, maître étalon. Mais elle se braque, elle caracole, dérape, déborde. Cette pauvre folle, on en internait pour moins que ça. Bientôt, il la montre du doigt. Le monstre, par analogie, lié au latin monstrare, montrer ce que Dieu fait. Le monstre est une démonstration, la puissance de la création. Il est terrible et il est frais, à moins qu'on ne soit fasciné par cette façon que le monstre a de ne pas se laisser enfermer. Bête de foire, non. Et regardez comme il invente sa propre histoire, ses barreaux, il les a sciés et le verrou, il a sauté. Le monstre, c'est le singulier, l'écart et le pas de côté. Et si ça tangue, si ça secoue, ce que te dit le frisson dans le cou, c'est que ton sang a recommencé à couler et à circuler. Et de ta tête jusqu'aux pieds, là tu t'es mis en mouvement. Hey, bonne nouvelle, tu es vivant. C'est bien pour ça qu'au départ, moi, cette émission, je voulais l'appeler Joli Monstre. Ouais, c'était l'idée. On se serait occupés les uns des autres, on aurait dormi tous ensemble empilés et on aurait fait une fête épouvantable.
En marge. Julia Foyce sur France Inter.
Notre famille.
Je m'appelle Ira, je fais les trous dans les arbres. Je te présente Judith.
Oh, je gagne pas à être connue. Je suis rabat-joie.
Et lui, c'est Alexander.
Je l'ai
fait. Il fait son intéressant. Fais comme si t'avais rien vu. Et lui, c'est Douglas. Je peux compter sur lui pour tout.
On s'occupera les uns des autres et on dormira tous ensemble, empilés.
Bonsoir, bienvenue, Thomas Joli Monstre. Thomas Joli, pardon.
Bonsoir. Et merci pour cette intro, bravo.
Merci. La fête épouvantable de Max et des Maxi-Monstres, ça vous parle ?
Ouais, c'était un livre. Un livre que j'avais quand j'étais petit. Et je crois que ce goût du monstre, alors je ne sais pas s'il vient précisément de ce livre, mais en tout cas, je me suis pas mal identifié à ce gamin qui va faire, comme vous l'avez dit, une fête épouvantable et qui les côtoie parce qu'il n'en a pas peur. Et au contraire, il les manipule. Enfin, il en est le maître d'une certaine manière dans son costume de loup.
Vous aimez les monstres,
costume, moi, je les adore. J'adore les monstres. J'ai toujours eu une attirance. Alors, je parle des personnages de théâtre, davantage pour ces personnages-là qui sont hors de l'humanité, en tout cas en marge de l'humanité, et qui posent des vraies belles questions sur justement la nôtre d'humanité.
Ce soir, c'est avec vous qu'on se balade en marge. Vous êtes notre Thésée dans le labyrinthe, porteur de la flamme olympique, vigie, relais, poisson pilote, comme vous voulez. Prenez le miroir, s'il vous plaît. Et dites-nous, il ressemble à quoi notre guide ce soir ?
Alors, il ressemble à quoi ? Il ressemble à un garçon qui vient d'avoir 43 ans.
Tout juste.
Qui est tout juste, qui est content de vieillir parce que je trouve que ça me va bien en vrai. Mm-hmm. J'aime bien les marques que ça commence à me faire. Je suis
c'est
pas
vrai?
Du tout. Ah ouais, je suis pas du tout inquiet de ça. Je suis même content parce que je commence à avoir un peu des petits cheveux blancs qui arrivent là sur les tempes et peut-être ça va me sortir de mon éternelle tête d'adolescent et que enfin j'aurai l'âge que j'ai. Voilà.
Ça vous donne ça vous donnerait une légitimité, une assise, une autorité.
J'avoue qu'il y a quelque chose chez moi qui tient de l'enfance et qui persiste même physiquement, mais pas que physiquement, mais et que c'est vrai que souvent on se dit mais il sort d'où, il a jamais rien fait, tout ça, il y a un petit truc comme ça et peut-être à un moment donné. Non mais vous savez, je crois. Alors j'ai une théorie, je sais pas ce qu'elle vaut. Je crois qu'il y a des visages qui sont faits pour vieillir et d'autres moins. Par exemple, moi je me souviens qu'au collège, il y avait des gars ou des meufs qui étaient magnifiques, c'était les rois et reines du collège. Je donne pas cher pour aujourd'hui. Moi, j'étais pas forcément le super beau gosse, mais je crois que plus ça va aller, mieux ça ira. Voilà, on se rassure comme on peut.
C'est vous qu'on regarde, c'est vous qu'on voit en ce moment au cinéma pour la première, non, la deuxième fois, je crois. Thomas Joly, acteur devant la caméra de ça aussi. On parlera dans la cuisine des Nguyen, un film qui questionne les origines, les racines, l'héritage. Quel rapport avez-vous avec le vôtre d'héritage ?
Eh ben, en vrai, j'ai longtemps été un peu pas très intéressé par mon héritage. Ouais, ouais, parce que je sais que ma famille, elle vient de Normandie, que depuis des générations, on est installé en Normandie. Il y a une légende qui traîne dans ma famille qui dit que nous aurions apporté la pomme aux États-Unis, mais que, mais que la fortune aurait coulé au fond de l'Atlantique, malheureusement pour nous. Mais non, voilà, il n'y a pas d'histoire. En fait, il n'y a pas de grande histoire. Et j'en ai longtemps été triste. Et en fait, il y a plein de petites histoires dans ma famille. Et c'est de celle-ci dont je suis. Sur celle-ci, je me suis attaché, en tout cas.
France Inter, En Marge.
Entrons dans la magie des comédies musicales pour nous remonter le moral quand le monde tourne mal. C'est le remède idéal, une comédie musicale.
Extrait de Dans la cuisine des Nguyen de Stéphane Lee Kuang avec Clotilde Chevalier. C'est son personnage Yvonne qui chante cette chanson pour un casting devant Philippe Vernon, grand metteur en scène alias vous-même Thomas Joly. Vous êtes d'accord, la comédie musicale c'est le remède idéal?
C'est un très bon remède en tout cas.
Ouais.
C'est un très bon remède parce que, bah, comme on l'entend là, il nous permet de jumper dans une autre réalité en musique, ce qui est toujours très puissant, la musique, et en danse, et en couleur, et en fait. Alors, c'est aussi de ça dont se moque un petit peu, enfin, se moque gentiment parce qu'il est absolument fan de comédie musicale, Stéphane Lee Kuang. Il joue avec ces petits clichés-là, et après, il les abandonne aussi pour montrer que la comédie musicale, ça peut être beaucoup moins pailleté et plumé, mais tout simplement vrai et juste, quoi.
Dans la vraie vie de la comédie
Absolument.
Musicale. Votre vraie vie à vous commence à la rue Saint-Pierre, petit village de Seine-Maritime, à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Rouen. 784 habitants aujourd'hui. Une école, une église, pas de magasin, mais une discothèque dont vous entendez les basses la nuit depuis votre lit. Et la journée, c'est Steve Waring. Alors, le son que fait votre enfance, Thomas Joly, c'est celui-là.
Chingla chingla pongla chingla pongla baby chingla pongla chingla pongla chingla pongla baby. Il était une fois un petit garçon qui aimait bien se promener à la campagne. Et un bel après-midi, il est allé se promener du côté des marécages. Là où les sols pleurent sur la terre et l'air est tout mouillé. Et la mousse qui descend des cyprès ressemble à un monstre à l'œil maussade.
Ça, c'était pour le son, pour la saveur. Votre enfance avait le goût de quoi, Thomas Joly?
Eh bien, justement, des grandes escapades dans les champs, dans les prairies, dans les forêts qui environnaient le village. Et finalement, ce que dit Steve Waring dans ce morceau des grenouilles, d'ailleurs, il va encore voir des monstres. Ben, j'étais pas très loin de faire ça, puisque moi aussi, j'allais dans les mares, écouter ou même pêcher des têtards, faire des galipettes sur les ballots de paille, alors que c'est très très dangereux qu'il ne faut pas faire ça. bref, voilà, c'était une enfance libre, verte et libre.
Votre père est imprimeur à l'université, votre mère directrice de soins dans une prison. On parlait d'héritage, qu'est-ce qu'ils vous ont transmis en termes de valeurs, par exemple?
La confiance.
Ouais.
La confiance, parce qu'ils avaient confiance en moi. Et puis souvent, j'ai...
Bah, ça, c'est énorme.
Ouais, ouais, c'est énorme, parce que je me disais ça récemment, je me disais, mais en fait, moi, je partais le matin... avec mon sandwich que je m'étais fait moi-même dans mon petit sac à dos, et je revenais le soir à 18h. Alors, on s'était donné une heure.
Ouais.
Il y avait une heure, il fallait être là à l'heure, et j'étais là à l'heure. Et puis, on avait un rapport de confiance comme ça, mais même quand j'ai décidé de faire du théâtre, c'était OK, bah, si tu as envie de faire ça, tu feras ça. Je voulais faire de la danse classique, ils m'ont dit OK. Et bah, voilà.
Vous, quand vous serez grand, vous serez danseur à l'opéra, ou non, gymnaste, vous êtes très doué au ruban. En même temps, raconter des histoires, inventer des mises en scène. Toi, tu vas là, et toi, tu fais ça. Et on dirait que ça va se passer comme ça. Votre sœur est votre actrice, votre grand-mère, votre costumière. Le goût du spectacle est déjà là, très fort. Dans une famille qui, pourtant, ne va pas au théâtre, deux fois par an au cinéma. Alors, est-ce que vous savez d'où ça vous vient?
J'ai appris, bien plus tard, que ma grand-mère, c'était son rêve de jeune fille d'être
c'est
actrice, qu'elle ne l'a pas du tout réalisé parce que son chemin de vie a été différent. Et, mais ça, je l'ai appris uniquement quand j'ai eu l'idée, mais bien plus tard, en 2005, de la mettre en scène dans un spectacle.
C'est fou, ça.
Et voilà, c'est fou. Et elle me dit, mais tu sais que ça a toujours été le rêve de ma vie, etc. En tout cas, c'est sûr que le goût vient de la volonté de raconter, de me raconter des histoires. J'ai retrouvé des cassettes où je suis en train de diriger des ballets, où je suis en train de... des ballets imaginaires, hein, bien sûr, puisqu'il n'y a pas de danseur dans ma chambre, mais voilà, je suis chorégraphe. Enfin, ouais, j'invente, je croyais que je voyais des choses invisibles.
Et vous êtes toujours à ce poste-là dans les histoires que vous racontez, c'est-à-dire celui qui raconte l'histoire et celui qui la fait jouer à d'autres, le grand ordonnateur
Alors, c'est d'abord l'acteur. Mon vrai métier, c'est d'être acteur, mais c'est vrai que j'aime bien être un acteur qui en fait jouer d'autres. Et je crois que j'ai, au final, retrouvé le goût de mon métier d'acteur en créant les mondes dans lesquels, moi, ensuite, j'allais jouer. Voilà. Donc, tout ça est assez cohérent, finalement.
Vous ferez aussi de la radio, tout gamin, des chroniques ciné, je crois, pour une radio locale catholique. Petit, avec la confiance que vous font vos parents, mais ça veut dire que vous, vous osez tout, vous n'avez peur de rien, vous y allez.
C'est un force à cause d'une série.
C'est
une série à la télévision où deux jeunes ados avaient une radio pirate dans leur chambre et allaient sauver des adolescents qui les appelaient à la rescousse. Et donc, avec ma meilleure amie de l'époque, on trouve ça génial. Et donc, on enregistre une cassette, on envoie toutes les radios locales. Et effectivement, une radio nous répond et nous propose une émission. Donc, appel chez mes parents un soir, parce qu'on avait laissé notre numéro de téléphone quand même. Et mes parents étaient surpris. Ils m'ont dit, écoute, vas-y, si t'as envie de faire de la radio, allons-y. Et donc, j'ai animé effectivement une émission de radio pendant 5 ans.
Vous avez reçu une éducation, vous le disiez, très libre chez vous. À l'école, ça se passait comment, du coup ?
Très bien. L'école primaire était un petit paradis pour moi.
Ouais.
J'ai un peu moins aimé le collège.
Pourquoi ?
Les grands.
Ouais.
Les grands m'ont toujours fait peur, d'autant que moi j'avais sauté une classe, donc j'étais encore plus petit qu'un sixième, et il y avait des gens qui avaient redoublé des classes et qui étaient plus grands que des troisièmes. Et donc je crois que là, d'un coup, la confrontation au nombre et puis à ces écarts d'âge, où à ce moment-là quand même, il y a des gens qui sont quand même quasiment adultes, enfin en tout cas physiquement parlant, moi j'ai été très, très apeuré. Ouais.
Alors, il y avait l'écart d'âge, et puis il y avait aussi le fait que vous cochiez pas forcément toutes les cases d'une virilité telle qu'on se la transmettait de génération en génération, je dirais une virilité à la papa.
Absolument.
Il y avait ça aussi.
Ah oui, et que je découvre d'un coup, parce que moi, on m'avait pas du tout pointé ça de ma scolarité jusqu'à présent. Donc, d'un coup, je découvre que oui, il y a des regards qui sont vers moi, des doigts qui se pointent, des rires, des insultes. Du harcèlement scolaire, en réalité, des agressions aussi physiques. Donc, c'est vrai que je suis un peu décontenancé, surpris, et je vis pas très bien le début de ce collège. Ouais.
Est-ce que c'est là que le théâtre devient une réponse, voire une échappatoire, c'est à ce moment-là ?
Exactement.
Ouais, vous avez 11 ans, vous intégrez une compagnie qui s'appelle le Théâtre des Enfants, et sa directrice, Nathalie Barabé, vous emmène tous en tournée, c'est complètement dingue.
Mais c'est ça
dingue.
Qui était fou. Alors, en fait, effectivement, je démarre dans cette compagnie d'enfants et ce n'est pas simplement un atelier tous les mercredis après-midi. On montait des spectacles, on partait en tournée, il fallait repasser son costume, faire des italiennes, des notes, ce qu'on appelle des notes après des filages, des générales, etc. Et c'était très strict.
C'est fou, ça.
Donc du coup, c'était pas du tout marrant. Ça me faisait même peur d'y aller, mais j'adorais la rigueur, j'adorais le travail. J'avais l'impression, en fait, d'être un acteur, déjà, qui travaillait, quoi.
Et sur scène, vous éprouviez quoi ?
J'avais peur. J'ai toujours eu très, très peur de monter sur scène. Jusqu'à aujourd'hui, ça va mieux, mais c'était une peur. Mais en même temps, il y avait le moyen de pouvoir être moi. Et souvent, je me suis dit, plus on mettait des costumes, des maquillages, des décors et pas mes mots dans ma propre bouche, plus je pouvais apparaître. C'est étonnant, c'est presque contradictoire, mais je crois que la beauté, en tout cas pour moi, du théâtre en tant qu'acteur, c'est d'apparaître moi-même derrière tout ça.
Vous avez 13 ans, vous êtes adolescent, âge des premiers émois, des premiers fleurs, des premiers chocs au cinéma. Et pour vous, la haine, le film, aura le parfum de l'amour.
C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles, enculé, c'est à moi que tu parles. Hein ? Ça, c'est à moi que tu parles, là ? Oh, c'est à moi que tu parles, mec, c'est à moi qui parle, cet enculé, c'est à moi qui parle, putain ! C'est à moi que tu parles comme ça, mec !
Qu'est-ce qui se passe pour vous au cinéma à ce moment-là ? Racontez-nous.
Alors, je ne suis pas très bien le film. Parce que nous sommes allés avec mon amoureuse voir ce film et que ce qui compte bien sûr c'est comment les mains elles se rapprochent sur l'accoudoir et puis c'est vrai que c'est au cours de ce film que je vais avoir mon premier baiser dans ma vie.
Comment est-ce que vous vous situez, ado, par rapport aux filles, par rapport aux garçons? Est-ce que vous commencez à mettre... Est-ce que votre désir vous apparaît de façon nette ou est-ce que c'est encore assez flou?
En réalité, je ne me pose pas beaucoup la question, mais je ne me la suis jamais vraiment posée en réalité.
Ouais.
J'ai toujours été vers... j'ai suivi mes sentiments, on va dire ça comme ça. Et y avait cette amoureuse. Et puis c'est vrai qu'à plus tard, je pense que 3 ou 4 ans plus tard, je vais me sentir amoureux d'un garçon et ça ne va pas... Moi, me poser de questions plus que ça.
Autre choc au théâtre, cette fois vous avez 15 ans, vous voyez la dispute de Marivaux montée par Nordet. Qu'est-ce que vous ressentez?
On est au Havre et je vais voir ce spectacle avec ma classe dans l'option théâtre et effectivement je me sens intelligent.
C'est vrai?
Ouais. Non mais vraiment, c'est comme si j'étais éveillé à ma propre intelligence. D'un coup, le texte, j'étais déjà allé au théâtre parce qu'on était en option et tout ça, mais d'un coup, il me parvient, d'un coup, je me mets à réfléchir à la situation, d'un coup, les personnages sont des entités qui me passionnent. Enfin bref, je me sens éveillé. Et en plus de ça, juste après ce spectacle, on fait une rencontre avec Stanislas Nordet, qui à l'époque doit avoir entre 30 et 35 ans, quelque chose comme ça, et il est jeune. Et il est en basket, et il est ensuite en veste de survette, et il nous fait une rencontre avec ma classe, et je me dis, mais en fait, je veux travailler avec cette personne.
Ouais.
Voilà, immédiatement.
Alors, le bac en poche, et après une licence d'études théâtrales à Caen, vous frappez à la porte du Théâtre National de Bretagne. Nordet en est le directeur pédagogique. Parmi les exercices prévus par le cursus, une carte blanche, vous vous en saisissez et vous mélangez Walt Whitman, Rothko et les Spice Girls. Si, si.
Et elle est même pas connue celle-là.
Love Thing. Elle est là, votre patte, Thomas Joly. Elle est déjà là, à ce moment-là. Vous êtes encore étudiant ou tout juste diplômé. Le mélange des genres, le choc des cultures, c'est... C'est là que ça se formalise, c'est à Rennes.
Alors, ça se formalise oui et non, c'est-à-dire que, encore une fois, comme ce que je vous ai dit sur l'amour, tant que ça vibre à l'intérieur, que ça me fait remuer, ou que pas forcément les paroles de cette chanson, mais pourquoi pas, même d'ailleurs, de n'importe quelle chanson, me font réfléchir, moi, je prends, j'adhère, je le reçois. Et donc, effectivement, je fais cette carte blanche, et je me souviendrai toujours que... Mes camarades étaient un peu dubitatifs d'entendre du Walt Whitman, puis après les Spice Girls, etc. Et tout à coup, à la fin, Nordet, qui fait un retour sur chacun d'entre nous, dit « Ah voilà, on peut aller de Britten, le compositeur anglais de musique contemporaine, de Britten à Britney. » Et j'étais là, mais oui, en vrai, pourquoi faire une hiérarchie entre les objets culturels ou les... Moi, voilà, ce morceau, il a accompagné mon adolescence et j'ai voulu le mettre dans ma carte blanche et c'est OK.
Comment se sont passés ces 3 ans à côtoyer celui que vous aviez tant admiré?
Eh bien, pas super bien, en vrai. La première année est formidable, la deuxième un peu moins, parce que justement, je me dis, bon, à quoi ça sert d'être acteur et si j'ai pas de vie à côté? Donc, j'ai fait une espèce de crise existentielle en disant, mais moi, maintenant, je veux vivre, j'ai plus envie d'apprendre le théâtre, mais je vais quand même continuer à l'école. Bref, je me perds un petit peu et la fin de l'école va être plus chaotique. C'est chaotique parce qu'aussi, je trouve pas beaucoup de plaisir à jouer. Avec les metteurs en scène que je rencontre, je trouve pas de place, je me sens pas heureux dans le travail qu'on me propose. Bref, et à la fin de la dernière année, de la dernière heure de la troisième année, on fait le dernier tour de table et Stanislas Nordet nous donne un mot à chacun et moi, il me regarde et il me dit, tu vois Thomas, ça fait 3 ans que tu es là et je ne sais toujours pas qui tu es.
Mais mon Dieu.
Voilà. Et je pense que si j'avais eu des mitraillettes à la place des yeux, on n'aurait pas eu la chance de connaître les suites de sa carrière.
Qu'est-ce que ça vous fait?
Ça me met très en colère.
Vous avez quel âge à ce moment-là?
J'ai 24 ans, absolument.
Ouais.
Et je suis très, 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 très en colère. D'autant plus que tous mes camarades de classe ont du travail.
Ouais.
Et pas moi. Et là, je fais une espèce d'introspection. Je me dis, bon, moi, je ne sais rien faire d'autre que du théâtre. On ne sait pas qui je suis. Bah, tant pis, je vais travailler dans mon coin. Avec quelques amis. Et on va créer une compagnie. Qui va finalement me redonner le goût de tout ça.
C'est ça, vous restez là, à Caen, vous ne montez pas à Paris, la colline d'Odéon, c'est pas pour vous, c'est pour vos amis, pas pour vous pour l'instant. Vous ne bougez pas, vous rassemblez quelques amis, quelques centaines d'euros. Et alors bon, tant pis, on la fera ici, notre compagnie, on s'engagera nous-mêmes, loin des lumières, et ce sera ça, la vie.
are bouncing in my brain. Oh Lord, are they gonna change? Just to thinking about the lies. I'm gonna sing a song again, but not the one that's running in my head. I gotta learn to be a man.
Est une journée, traduction approximative. Thomas Joly, My Year is a Day, une chanson qui résonne très fort en vous. Ouais. Pourquoi ?
C'est une chanson qu'on avait utilisée dans un de nos spectacles avec la compagnie, la Piccola Familia s'appelait la compagnie, dans Piscine Pado précisément de Marc Ravenhill, et c'est devenu un peu notre hymne. Et ce sont des gens qui ont accompagné évidemment de longues années, on s'est accompagnés, je veux dire, mutuellement. Et c'est vrai que depuis quelques années, avec les grandes productions et de Starmania et des cérémonies, on s'est un peu perdu de vue. Mais la vie est longue, comme on dit.
C'est vous qui nous guidez En Marge ce soir sur France Inter et on emprunte vos pas. On est donc en 2006, votre compagnie, la Piccola Familia, est créée. La petite famille, famille choisie par curiosité, par goût, par affinité personnelle, élective, par choix, par tendresse aussi. Ça, c'est le texte de votre manifeste et vous décidez aussi de ne rien vous interdire jamais. Monter Marivaux et Guitry, c'est possible. Mélanger les genres, flouter les frontières, exploser les codes et glisser du fantastique au macabre, au mystérieux, le monstrueux et merveilleux. C'est tout vous et ça marche. Votre Arlequin poli par l'amour est un succès et les portes s'ouvrent.
France Inter, En Marge, Julia Foyce.
Disclosure, You and Me, on est en 2012, Thomas Joly, vous êtes où ? Vous en êtes où de votre vie ?
Oh là là, c'est une période très riche, très dense, formidable, géniale, parce que je suis en train non seulement de vivre une très jolie histoire d'amour à ce moment-là, avec un garçon merveilleux, et en plus je suis en train de travailler sur Henri VI. Déjà depuis 2-3 ans,
ouais.
Qui va être le gros morceau, c'est un gros morceau je veux dire, parce que c'est 3 pièces de Shakespeare, donc je bosse très intensément, et tout ça, ça va m'emmener jusqu'en 2014. Ouais.
Et l'histoire même, votre histoire avec cette pièce, elle est quand même pas banale. Racontez-nous comment tout commence. Et ça, ça nous raconte comment chez vous, tout s'imbrique tout le temps. C'est l'héros, c'est le Thanatos, c'est même plus main dans la main. C'est, ils ont fusionné, ils sont. C'est des frères siamois avec vous.
C'est une grande fête, effectivement. Oui. Effectivement, en 2009, j'avais prévu des vacances avec un amoureux et la rupture est consommée juste avant l'été. Voilà qu'il part de l'appartement avec ses affaires, où je me rends compte d'ailleurs que je n'avais pas moi grand chose, à part un canapé.
Note pour plus tard, pensez à acheter mes propres meubles.
Absolument. Mais sort à ce moment-là, dans la Pléiade, les pièces historiques de Shakespeare, ouais. Je décide d'acheter ce volume et de lire. Puisque après tout, je pars pas en vacances, je peux au moins lire ces pièces, j'ai du temps, quoi. Et je lis Henri VI et Richard III, enfin je lis toutes les pièces historiques, mais surtout Henri VI, Richard III, et je tombe en amour.
Mais en amour avec Henri VI et Richard III, ou avec Shakespeare, est-ce qu'il y a entre vous et lui comme une connexion qui se fait, à force d'essayer de comprendre qui est cet homme qui écrit ces textes-là?
En fait, les deux, parce que Henri VI, c'est l'une de ses premières pièces. D'ailleurs, la légende, les rumeurs disent que c'est pas complètement lui qui aurait écrit la première partie, etc. Donc c'est un Shakespeare qui se cherche. Et je me suis dit, quel formidable terrain de jeu, merci William, pour un metteur en scène comme moi, qui a envie d'explorer. Voilà, le désir naît, et ça, c'est comme dans ma vie, c'est pareil pour les gens, pareil pour les œuvres, pareil pour tout. Si le désir est là, je ne peux vraiment plus aller contre.
Et vous vous lancez dans ce qui reste quand même l'une des pièces les plus longues du répertoire, hein. 15 actes, 150 personnages, 10 000 vers. Autant dire qu'au départ, personne n'y croit, mais vous persistez, vous commencez, vous le disiez, petit bout par petit bout, ça marche, le succès est là, le public vient. Alors un jour, Olivier Py, tout juste nommé directeur du Festival d'Avignon, vous dit banco, on est en 2014 et votre Henri VI est né.
La Guyenne, la Champagne, Reims, Rouen, Orléans, Paris, Gisors, Poitiers, tout est perdu!
Je dis que malheureux devant le corps sans vie d'Henri, où la perte de ses grandes villes va lui faire briser le plomb de son cercueil et se relever d'entre les morts!
Quel souvenir est-ce que vous, vous gardez de cette folle aventure ?
Ah là là, c'est la première fois que, parce que ça dure 18 heures et que c'est ce récit incroyable, etc., que je sens que le théâtre, au-delà de raconter une histoire, est un lieu de célébration de l'humanité partagée. Je le vois, je le perçois, je le sens, je le constate. Les gens rentraient à 10h du matin dans la salle, en sortaient à 4h du matin le lendemain, debout, et ils réclamaient la suite encore, là, même à 4h du matin, ils réclamaient Richard III, Richard III, parce que c'est la suite directe, ce qu'on fera plus tard. Et je me suis dit, mais c'est fou qu'on se soit enfermé 18h pour se faire entendre raconter une histoire entre êtres humains, certains assis dans le noir, d'autres sur la scène. Et qu'est-ce qu'on célèbre là, au-delà de ce qu'on se dit ? Ben, on célèbre le fait qu'on est vivant et vivante, au même endroit, en même temps. Et il y a tellement peu d'endroits aujourd'hui pour ça, qu'en fait le théâtre il persiste à travers les âges et les techniques et la technologie et Instagram et Internet et les réseaux sociaux et tout ce que vous voulez, le cinéma, tout ce qui lui passait dessus, le Netflix, etc., il persiste pour ça.
Mais alors pourquoi ? Parce que... Après tout, vous auriez pu vous attaquer à quelque chose d'un peu moins volumineux, un peu moins monstrueux pour le coup. Pourquoi cette démesure qui fait aussi partie de la patte Thomas Joly ? Pourquoi ce besoin d'aller vers quelque chose d'aussi gigantesque ? Est-ce que c'est un cap ou pas cap ? Est-ce que c'est l'antidote à l'ennui ? Est-ce que c'est ce remède dont on parlait en début d'émission ? Et là, à ce moment-là, le remède, il fallait qu'il soit costaud. C'est quoi ?
Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du mur ? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du cadre qu'on a posé sur un objet théâtral qui durerait en gros 1h30, 2h, et on viendrait le soir regarder ça, et on applaudirait 3 fois et on repartirait chez soi. Bon, il y a quoi derrière cette norme-là, ce cadre-là ? Il y a quoi qui fait que ça persiste ? Et il y a quoi comme expérience à vivre ensemble ? Il y a quoi derrière le « c'est comme ça » ? Voilà.
C'est comme un shoot de quelque chose qui vous dit « je suis pas seulement vivant, je suis très très vivant ».
Alors, moi je suis très 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 vivant, je me sens très 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 vivant, ça c'est vrai. Mais je sens que c'est un outil, le théâtre, qui permet en réalité une émancipation plus grande et qui raconte plus qu'il n'est lui-même. Parce qu'il est fait avec les gens dans la salle. Et que moi je pense que les gens qui sont venus voir Henri VI et qui s'applaudissent aussi eux-mêmes à la fin en réalité, qui se parlent pendant les entr'actes, qui se rencontrent, qui s'échangent de la bouffe, qui dorment les uns sur les autres quand ils sont fatigués, qui se résument les parties du spectacle. Tout ça, en fait, c'est du ciment de connexion entre nous tous et nous toutes, quoi. Et c'est ça que j'avais envie d'éprouver.
L'année d'après, vous jouerez Henri VI à l'Odéon. Ça, c'est fait. En 2020, vous serez nommé directeur du Centre Dramatique National d'Angers. Et là, vous ajouterez donc Richard III, soit 6 heures de spectacle en plus pour 4 week-ends de représentation. 24 heures de représentation au total. Toujours plus loin, toujours plus fort. Mais attendez, entre-temps, 2018, Avignon encore, Thieste de Sénèque. Et on vous écoute.
Au fond des étables de Pélops, il y a une bête fabuleuse. Un mystérieux bélier, il conduit les troupeaux et assure leur fécondité. Tout son corps est couvert d'une toison d'or. Quand un roi de la dynastie de Tantale accède au trône, il prend l'or de cette toison pour en orner son sceptre. Avoir le bélier, c'est avoir le pouvoir. Là où est le bélier, là est la fortune de la maison royale. L'animal sacré broute dans un pré à l'écart. Ce pré est entouré d'un mur de pierre. On enferme ainsi le destin du roi. C'est ce bélier que mon frère a osé me voler.
Le plaisir sur scène, vous l'avez enfin trouvé là ?
Absolument.
Ouais.
Dans un monstre peut-être le pire qui soit de tout le répertoire
théâtral. Pour ceux qui ne sauraient pas, on se parle d'infanticide, de cannibalisme,
oh là
de
là.
Je fais manger mes neveux à leur père, enfin bon
oh
bref.
Là là. Attrait donc, ce personnage dans la pièce Thieste est un personnage merveilleusement monstrueux, mais qui m'a... Je me suis trouvé avec lui beaucoup de points communs, alors pas dans ses actes immondes, mais sur son rapport à... Comment il se formule, comment il parle, qu'est-ce qu'il fait de sa haine, comment est-ce qu'aussi, au bout de sa haine, il n'y a rien. Même s'il fait cet acte atroce, il n'arrive pas à être finalement vengé. En tout cas, il ne se sent pas vengé, et donc ça nous rassure, oui, mais ça nous raconte surtout... Eh ben, que la monstruosité, au-delà de l'humanité, que l'humanité est une zone qui est en fait assez confortable et qui nous sert à vivre ensemble, et que derrière ça, ça devient plus compliqué. Ouais.
Est-ce que vous savez, avec le recul, ce qui vous fait aller chercher jusqu'au plus profond des abîmes de l'être humain, dans ce qu'il peut avoir de plus noir, de plus violent ? Est-ce que c'est une volonté de comprendre ? Est-ce que c'est une fascination pour ce que... pour ce que vous n'avez pas connu enfant, parce que pour le coup, on a plutôt l'impression de, avec Steve Waring et les vaches et les clochers, on a l'impression que tout s'est fait dans la douceur. Est-ce que du coup, c'est quoi ?
C'est aller interroger ce qui nous rend humains, vraiment. C'est vraiment ça. Et que moi-même, je me pose... Alors, je n'ai pas ces idées-là comme attrait, mais moi-même, je peux avoir des sentiments de haine, de jalousie, de colère, des choses qui... comment j'ai dit colère ? Vous avez vu, c'était tellement théâtral, de colère. Et qu'à un moment donné, en fait, aller explorer un personnage comme celui-ci, c'est aller tester, explorer soi-même ses propres bornes, là où on a mis l'humanité et la monstruosité. Mais vous savez, c'est aussi très, 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 très ludique.
Ça... On le sent, on le voit, et quand vous en parlez, et dans chacune de vos mises en scène, il y a une jubilation, il y a quelque chose comme ça, du plaisir d'enfant à injecter partout de l'énergie, de la vie, de la poésie au moment où on s'y attend le moins. Alors certains puristes s'en pincent parfois le nez, tant pis pour eux, vous continuez, tant mieux pour nous sur votre lancée. Vous montrez aussi bien Roméo et Juliette à l'Opéra Bastille que Starmania, un carton là encore. Et puis voilà les JO, 4 heures de show, 12 tableaux, 85 bateaux, on avait dit quoi déjà ? Toujours plus loin, toujours plus grand, toujours plus fort, 80 écrans géants, 3000 artistes, 1500 costumes et un Philippe Catherine tout nu.
Qui se cache ?
Sous cette cloche, quelqu'un qui vient de chanter, même déjà Philippe Catherine.
Sous les traits de Dionysos, dieu du vin.
Ou cacher un revolver quand on est tout nu. Ou je sais où vous pensez, mais c'est pas une bonne idée. Ouais, plus de riches, plus de pauvres quand on redevient tout nu. Oui, qu'on soit slim, qu'on soit gros, on est tout simplement tout nu. Nous vivons comme on est né. Nous vivons comme on est né. Tout simplement tout nu.
C'est un truc de kamikaze un peu quand même, c'est quatre cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Para et des Jeux Olympiques. On le précise pour celles et ceux qui ne sauraient pas, mais vous n'avez jamais pu les répéter en intégralité, jamais. Les dimensions étaient délirantes, les enjeux colossaux.
Trop bien.
Okay.
Trop bien.
Vous n'avez jamais eu peur ?
Si, bien sûr, mais vous savez, en fait, il suffit que je ne sache pas faire quelque chose pour avoir envie de le faire.
C'est ça, donc c'est on est dans le cap ou pas cap, un peu.
Un peu.
Ouais.
Et puis parce que ça veut dire qu'il faut repenser soi-même ses propres processus de création, qu'il faut imaginer une autre façon, bah, vous l'avez dit, de répéter, de travailler, d'imaginer, de projeter. Et puis, là, il y avait quand même... Et vous savez, moi, je fais des spectacles et je ne sais pas très bien pourquoi au début, je choisis de dire oui, puis à la fin, je me dis, ah, en fait, j'ai fait
en fait,
ça pour ça.
Ça.
En vrai, je pense que j'avais besoin, un petit peu comme ce que je vous ai dit sur Henri VI, j'avais envie de vérifier que la puissance du spectacle vivant, elle était réelle, elle n'était pas simplement un divertissement de plus, elle était un outil pour chacun, chacune, et pour le nous, à la fois l'intime et le collectif, le singulier, le pluriel, bref. Et on l'a vérifié, parce que vous savez... Tout ça vient aussi d'une vieille histoire, le théâtre, ça a 2500 ans, les Grecs se réunissaient dans des théâtres de 20 000 places, aujourd'hui un zénith c'est 4 000 par exemple, donc voilà, toute la cité venait et allait voyez des pièces type Tieste, hein, voilà, qu'on a entendu, et il y a bien quelque chose dans cet art-là, le spectacle vivant, qui fait la démocratie, qui est inscrit dans le fait de faire société, enfin voilà, et moi je voulais vérifier, et je pense que c'était l'occasion, voilà.
Cette séquence mémorable avec Catherine, mais aussi Barbara Butch, Nicky Doll et tout ce que la scène queer française peut compter de talents prodigieux, vous a valu une vague terrible d'insultes, de dénigrements et de menaces de mort proférées par des milieux réactionnaires outrés sans doute par votre liberté. Vous avez porté plainte, l'audience a eu lieu la semaine dernière. 8 mois de prison ont été requis contre les 7 prévenus. Le jugement a été remis en délibéré, il sera rendu en mai. Comment est-ce que vous avez vécu toute cette séquence, toute cette période ?
Avec grande stupéfaction et même stupeur, parce que en vérité, ce procès, pour moi, il est plus important que au-delà de moi, il est important pour la liberté de création d'abord. Et puis c'est aussi le procès de la haine, c'est-à-dire que cette haine, elle n'avait pas de limite, elle n'avait pas de cible claire. Si les cibles c'était les gens, les artistes, moi en l'occurrence, mais pas que moi, mais elle n'avait pas de comment dire, c'était dans tous les sens, toutes les haines, le racisme, l'homophobie, l'antisémitisme, la grossophobie, la transphobie, enfin, voilà, toutes les haines se déversaient tout à coup. Donc ça prouvait bien en fait que qu'elle menait, que c'était une haine lâchée en meute comme ça, mais qui n'avait pas de vérité en vérité, enfin qui n'avait pas de source autre, enfin qui ne venait pas en tout cas de la cérémonie. C'était une décharge comme ça. Et je pense que en tout cas, ce qui est heureux avec ce procès, c'est que la haine, elle mène... sur son passage, elle fait des ravages, hein, parce que n'oublions pas que ça crée de la dépression, de l'isolement, parfois du suicide. Enfin, je veux dire, le cyberharcèlement est une réalité toxique au plus haut degré. Mais la haine, in fine, elle ne mène qu'au tribunal. Et c'est bien que ce soit redit aujourd'hui.
Ça ira, c'était le titre de votre show pour les JO. Ça ira parce que ça peut, parce que ça va, parce que ça doit aller, pas le choix. Et le théâtre est là pour ça.
Marge sur France Inter.
Je vois une geisha en sandales de bois à Hiroshima, une vendeuse de bubble tea sur la place Tiananmen. Je vois une Asie sans frontières, éternelle, 1000 visages qui se fondent en un seul.
On n'est pas toutes pareilles. On n'est pas interchangeables.
Ce n'est absolument pas ce que j'ai dit. En revanche, j'aime bien cette énergie. Utilise-la. Convoque-la.
Oui,
fais sortir une sorte de furie à l'intérieur de la geisha.
Alors, vous allez remonter vers le fond et on va reprendre, ok?
Ok, fais sortir la fureur de la geisha qui est en toi. Ça repose d'être acteur.
C'était un luxe incroyable. C'est un luxe incroyable. Vous savez, en France, on a une drôle de je sais pas si c'est que en France, de considération des acteurs qui commencent à faire de la mise en scène. Après, on se dit, bon, bah, du coup, maintenant, ils font de la mise en scène. En réalité, moi, maintenant que j'ai mon endroit de création à côté, de cérémonie, de Starmania, de spectacles divers, je n'ai qu'une joie, c'est d'aller me fondre dans le rêve des autres. J'ai mes rêves, c'est bon, donc je ne vais pas aller polluer ceux d'un ou d'une metteuse en scène ou d'un réalisateur ou d'une réalisatrice, j'ai les miens. Donc moi, je ne suis que au service du rêve, en l'occurrence ici de Stéphanie Kong, et j'ai adoré ça.
Je parlais de repos, mais... De manière générale, quel rapport est-ce que vous avez avec le repos ?
J'adore dormir. C'est un plaisir immense et je dors très longtemps.
Alors dormir, oui, mais ne rien faire.
Alors, je viens de découvrir, figurez-vous, qu'après ce fol épisode olympique, ouais. je suis parti un mois et demi loin de France et j'ai adoré rien faire. C'était la première fois de ma vie et j'ai adoré rien faire.
Donc vous recommencerez.
Ah, absolument.
La boucle va bientôt se boucler, Thomas, avec vous. Tout commençait donc un 1er février à la maternité de Rouen. Tout se terminera comme ça, sur un air d'opéra, Roméo et Juliette, acte 3. Au jour de deuil, au jour de larmes, c'est cette musique que vous voudrez pour votre enterrement.
Et soyons spectaculaires jusqu'au bout.
Évidemment.
Moi, je trouve que c'est très joli, en tant que personne décédée, d'envoyer à des messages depuis l'endroit où on est après la mort, aux gens qui restent. Et là, soyons spectaculaires, soyons drama jusqu'au bout. C'est un chant de deuil qui va faire pleurer. Parce que, ouais, moi, je veux qu'on pleure. Je veux qu'on pleure beaucoup à mon enterrement, parce qu'il faut que ça sorte aussi. Et puis, vous inquiétez pas, il y aura ce son, évidemment, chanté par un vrai cœur et un vrai orchestre, sinon ça n'a pas d'intérêt.
Évidemment.
Et puis derrière, on fera aussi la fête quand je serai mort.
Quel rapport est-ce que vous avez avec la fin des choses en général, avec la vôtre en particulier, avec cette idée du repos éternel, pour le coup ?
Alors vous savez, moi je fais un art qui est éphémère. Donc j'ai appris, avec le théâtre, à vivre le moment présent et à ne pas perpétuer. Enfin voilà, ça, le rideau se ferme et c'est terminé. Voilà. Bah, j'ai un peu le même rapport, je crois, avec la vie. Bah ouais, je sais que c'est court. Enfin, c'est court. C'est un temps, en tout cas, à durée déterminée. Je ne sais pas quelle est la durée. Je n'ai pas du tout envie de la savoir, d'ailleurs. Et un jour, ça s'arrêtera. Par contre, ce jour-là, je veux me dire, ok, bien joué, c'était cool. Voilà. C'est comme une bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais pas, quelque chose dont je serais heureux.
Et sur votre route vers l'éternité, vous emporterez quelque chose que vous nous avez emmené en studio.
Une petite boîte
noire.
Toute noire, dans laquelle il y a un vrai morceau du cadre de scène de l'Odéon.
Mais non.
Qui est tombé pendant que je jouais Richard III à l'Odéon. Tellement les basses devaient être tonitruantes, j'imagine. Bref, et donc le bout du cadre est tombé. Et on me l'a ramassé et on me l'a offert un peu en catimini. Moi, je le dis du coup sur France Inter. Enfin voilà, on m'a offert un petit bout du cadre de scène de l'Odéon.
Il y a un mot dessus.
Ouais, c'est écrit « Véritable dorure ». Odéon, Paris 6e. C'est l'équipe technique qui, après, vous savez, on fait la démise du spectacle. Une fois que le spectacle est terminé, il y a encore des gens qui travaillent. Notamment l'équipe technique. Ils avaient trouvé ce bon gros bout quand même du cadre. Et voilà.
Vous lui souriez à cet objet. Il vous dit quoi à vous ?
Il me dit que j'ai un petit bout de l'histoire du théâtre français chez moi, ça me plaît, du plus beau théâtre, je trouve, de France, qui est celui du Théâtre National de l'Odéon. Et puis, il me raconte aussi que le théâtre, ça fait s'écrouler des petits bouts de mur.
Thomas Joly en marge, c'est terminé pour ce soir. Dans la cuisine des Nguyen de Stéphanie Kong avec Clotilde Chevalier, c'est en ce moment au cinéma. Merci à toutes, à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.